Bonjour Alain Martel. Tout à l'heure, Sophie, elle parlait d'Auguste et ça avait l'air de vous amuser. Elle disait « Auguste, il est pas pire ». Mais justement, vous avez un autre regard que Sophie sur Auguste, puis ça m'intéresse ce regard-là. Il est comment, Auguste?
Auguste, je dirais qu'il est pas mal plus que pas pire.
Oui! Yeah!
Ouais, c'est un enfant très éveillé, curieux, moteur, oui, ça oui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ben, peut-être juste pour compter une petite anecdote illustrer ma perception d'Auguste. On faisait un jeu l'autre fois dans sa classe, à l'école, puis c'était le jeu du téléphone. Hein? Donc, on fait juste se transmettre un message d'un à l'autre, puis on regarde si, au bout de la ligne, ça aboutit de façon similaire ou complètement déformée. Mais dans le cas d'Auguste, il ne pouvait pas s'en tenir aux petits messages trop courts qu'on lui avait passés. Il a fallu qu'il invente une petite histoire autour de ça. Et là, il l'a transmis à la petite fille qui était à côté de lui. Mais pour lui, c'était comme inconcevable de transmettre juste deux mots. C'était plate. Fait qu'il, c'est un enfant qui maîtrise déjà bien sa langue, la LSQ. Puis qui est déjà capable dans son imaginaire de...
Oui, beaucoup d'imagination.
Il est déjà capable dans son imaginaire de jouer avec le langage pour ajouter des choses, pour aller dans ses fantaisies et tout ça. Fait qu'il est pas mal plus que Poppy.
Oui. À l'école Gadouin, où vous travaillez comme psychoéducateur, Alain, ce sont des enfants qui vivent tous avec une sourdité?
À l'école Gadouin, oui. Ce sont des enfants qui vivent tous avec une sourdité, puis qui ont, je dirais, comme caractéristique principale d'être des utilisateurs de la langue des signes québécoise, qui est leur principal outil de communication au moment où ils sont scolarisés dans cette école-là. Donc, il y a tout un éventail, je dirais, là, de façons de communiquer dans l'école. Ça va d'un enfant qui utilise exclusivement la langue des signes québécoise avec aucune capacité à oraliser et aucun reste auditif, à d'autres enfants qui ont toutes sortes de capacités au niveau oral et qui peuvent utiliser là, partiellement la langue orale pour communiquer, en plus de la langue des signes, et qui ont certaines capacités aussi au niveau auditif. Fait qu'il y a tout un éventail là, parmi les enfants. Moi, je ne suis pas rattaché directement à l'école.
Vous êtes au CIUS à Raymond Dehoire. Alain, la question que Sophie a, ou la réflexion, c'est-à-dire l'intégration plus global possible de son fils dans les loisirs, dans les sports, à l'école. Est-ce que c'est une question récurrente chez les parents d'enfants sourds?
Je dirais que oui. Ça fait quand même plusieurs années là, que je suis à ce service-là. C'est quelque chose qui revient continuellement puis qui est normal qu'elle revienne. Hein, parce que je dirais que bon, dans ma perception d'intervenant, c'est sûr que l'intégration, ce n'est pas un objectif en soi. Hein, c'est un moyen pour atteindre le plein épanouissement de notre enfant. Donc, c'est plus une trajectoire, l'intégration, que ce soit en service de garde, que ce soit dans les loisirs, que ce soit en milieu scolaire, comme Sophie en a parlé tantôt, son rêve pour plus tard, pour Auguste, ben c'est plus une trajectoire. Mais c'est toujours présent, c'est toujours là, parce qu'on ne peut pas... Oui, c'est important d'avoir un milieu dans lequel un enfant sourd qui communique en LSQ puisse vivre des interactions, construire son identité, construire une estime de soi qui fait sens. Mais cette personne-là va toujours... Elle ne peut pas vivre en vase clos continuellement dans un monde de personnes sourdes parce que la famille est entendante. Ouais. Parce que dans les loisirs qui sont accessibles et qui sont intéressants pour l'enfant en question, c'est dans un milieu entendant. Donc, il faut créer des ponts dans cette intégration-là pour que l'enfant puisse intégrer là, les différents milieux puis s'épanouir au travers de cette trajectoire-là d'intégration.
On va faire comme Sophie et sa famille, on va parler de stratégie. Hein? Il y a des stratégies pour se rendre au souhait de Sophie dans 5, 6, 7 ans, c'est-à-dire l'intégration à une école dite régulière. On commence par quoi? C'est quoi les premiers objectifs qu'on peut se donner en tant que parent pour tenter de viser ça?
Mais je dirais tantôt, Sophie l'a bien nommé, là, effectivement, c'est quoi les besoins qu'Auguste, ça va être quoi les besoins d'Auguste de pouvoir intégrer un milieu entendant avec interprète et avec tout ce que ça suppose aussi? Bien, c'est sûr, c'est d'avoir sa première langue solide, c'est clair. Ouais. C'est déjà en construction, c'est là. Mais après, ça va être de mettre en place puis de suivre un parcours académique, puis d'avoir comme les acquis qu'il faut au niveau scolaire pour pouvoir intégrer une classe avec les entendants, parce que l'idée étant ça aussi, là, de donner cette accessibilité-là et cet éventail-là peut-être plus large en termes de programme. Puis quand on parle d'études après ça ou après le secondaire, d'études postsecondaires, bien, c'est la même chose. Ce qu'on veut, on n'a pas le choix. De toute façon, il faut aller vers l'intégration.
Oui.
Mais ça va supposer la mise en place aussi de différentes ressources qui sont déjà existantes pour la plupart, les services d'interprétariat qui sont en milieu scolaire, les services d'appui aussi, que ce soit en orthophonie, que ce soit en audiologie, des systèmes d'amplification, si c'est utile à l'enfant. Il y a une palette, il y a tout un ensemble, je dirais, de moyens qui ont à être mis en place. Puis ça, bien, il faut le prévoir d'avance, c'est sûr, parce que quand on prévoit intégrer un enfant, on n'arrive pas, puis le mois d'après, ça se fait.
Ouais.
Je pense que c'est de préparer l'enfant aussi, parce que de préparer l'enfant aussi psychologiquement puis socialement à vivre dans quelque chose qui va être différent. C'est un enfant comme Auguste qui est déjà intégré dans plein de loisirs avec des enfants entendants, connaît cette...
Les codes aussi, la façon d'interagir.
Ouais.
Vous le disiez tantôt, Sophie, il passe d'un monde à l'autre sans cesse. Là.
C'est ça. Puis... il va falloir qu'il y ait aussi cette possibilité-là puis cette fluidité-là dans les rapports pour un enfant sourd qui arriverait d'une école comme l'école Gadebois que fréquente Auguste et qui s'en irait après ça dans un milieu entendant. Ben, on n'a pas les mêmes rapports. Hein? On est avec un interprète. Il y a comme le pont avec cet interprète-là pour tout ce qui est du savoir académique, mais au niveau social, au niveau des activités, au niveau de l'amitié, au niveau des relations avec les groupes ou les individuels dans ce nouveau milieu scolaire-là, bien, il va y avoir nécessairement quelque chose à construire. Puis ça, il faut le préparer aussi avec l'enfant parce que ça va être des fois un peu plus nouveau, dépendamment des enfants puis des expériences qu'ils ont eues par le passé. Pour ça, ben, ils seront plus ou moins outillés au niveau des moyens là, pour le faire.
Vous parlez d'objectifs scolaires, c'est-à-dire l'enfant doit répondre à certains critères pour passer peut-être à un autre type d'école. On s'attend à quoi d'un enfant sourd dans ce parcours-là?
Je ne suis pas le spécialiste là, du parcours académique, je vous dirais, mais c'est sûr que si un enfant sourd est intégré en milieu scolaire régulier, par exemple au secondaire, ben, c'est sûr que ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a quand même, lui, une difficulté supplémentaire, même s'il a son interprète qui, théoriquement, lui donne accès à l'ensemble du contenu qui est passé, bien, ne serait-ce que pour prendre des notes, ne serait-ce que pour... Il ne peut pas se permettre d'être inattentif trop longtemps parce qu'il manque une partie du contenu.
Ouais.
C'est vrai pour tous les enfants, vous me direz, mais c'est particulièrement vrai pour un enfant qui a une surdité et qui... par l'interface de son interprète, a accès là, à ce contenu-là.
Ça lui demande ce petit effort-là supplémentaire. Mais comme vous le disiez tantôt, Sophie, vous parliez de l'implant cochléaire. Ça demandait de l'effort à toute la famille, mais à Auguste aussi. C'est un enfant, et peut-être vous me corrigez si je me trompe, mais qui est habitué de faire des efforts pour que ça se passe. Là.
Ah oui, oui. Il est très résilient. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Ouais. Puis c'est pas grave.
Il y a ça de sa mère, celle qui disait tantôt, on essaye, on essaye tout le temps. En terminant, Alain, dernière question pour moi. Les parents, bon, vous avez parlé on a parlé de stratégie, de préparation, de voir venir les choses, de patience aussi dans cette démarche-là vers l'intégration. Votre dernier conseil aux parents là, dans cette préparation-là à l'intégration de leur enfant?
Ben, je dirais, moi, c'est le conseil qui est vrai un peu partout, c'est juste la sensibilité aux besoins de notre enfant. Qu'est-ce qu'il a besoin à ce moment-là? Hein? Qu'est-ce qui l'allume, mon enfant, à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a besoin? Où il en est rendu? Quand il est tout petit, si je prends un enfant comme Auguste, bien, c'est sûr que là, toute la construction de son identité, la construction de sa langue, sur laquelle il va appuyer l'ensemble de ses apprentissages, bien, c'est majeur. Donc, il faut voir à ça à ce moment-là. Dans 5 ans, on sera rendu ailleurs. On va être dans autre chose. Il va avoir une identité de construite. Il va avoir une estime de soi qui va être là. Il va avoir conscience qu'il est un enfant sourd différent des autres, avec tout ce que ça veut dire. Fait qu'il faut être, je pense, présent et sensible.
Oui. Alain Martel, on m'avait dit que vous étiez extraordinaire, et c'est vrai, également psychoéducateur à l'installation Raymond Demoir du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, et vous collaborez aussi, là, vous êtes sur le plancher de l'école Gadebois, auprès d'Auguste et sa famille. Merci beaucoup, on vous laisse aller, on sait que vous êtes pressé.
Merci beaucoup.